Chapitre 4. Le martyr des églises. En vertu des instructions sur la séparation de l'Église et de l'État, les églises sont devenues propriétés nationales, dont les soviets locaux ont la disposition et qu'ils remettent aux associations cultuelles composées d'au moins 20 membres. Les membres de l'association peuvent se cotiser pour couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien de l'Église, mais ne peuvent avoir aucun patrimoine propre. Les soviets exercent sur leur activité le droit de contrôle et peuvent désaffecter les églises et leur donner une destination autre que celle de l'exercice du culte. Autant qu'on en peut juger d'après les informations de la presse soviétique sur la fermeture des églises, ce droit de désaffection paraît d'ailleurs appartenir à toutes sortes d'institutions. Tantôt c'est le commissariat de l'intérieur, tantôt c'est le comité central exécutif ou le soviet local, ou encore un simple comité des pauvres, etc. Les prétextes pour refuser à une association comptant 20 membres le droit de célébrer le culte dans l'église sont nombreux. Tantôt on demande un prix de location exorbitant, tantôt on prétend que le pourcentage en ouvriers est insuffisant, tantôt on exige que chaque membre se présente personnellement au comité central distant de dizaines et de dizaines de kilomètres de son domicile, etc. Nous ne possédons pas le chiffre exact des églises et couvents fermés ou désaffectés. La presse officielle soviétique donne, pour la période s'étendant seulement jusqu'au 1er janvier 1923 et pour les couvents seuls, le nombre de 722. Quant au nombre d'églises fermées, il doit atteindre plusieurs milliers. Le martyr des églises a passé par deux périodes. La première s'étend jusqu'à la grande famine de 1921-1922. La seconde ne finira qu'avec la fin de la dictature bolchévique sur la Russie. La première période fut celle du communisme intégral, de la guerre civile et de la terreur. Les attentats contre les églises et les couvents, leur destruction, leur pillage, leur profanation, ont pris pendant cette période une forme particulièrement sauvage et sacrilège. Il suffit de citer deux ou trois exemples, dans tous les autres cas les procédés employés furent pareils. Voici par exemple ce qui se passa en 1919 dans le gouvernement de Kharkov, au célèbre couvent de Sviatogorsk, particulièrement vénéré par le peuple. 60 soldats de l'armée rouge pénétrèrent dans le couvent et après avoir pillé les cellules des moines, firent irruption dans l'église, arrêtèrent le service divin en profanant les icônes, forçant les moines à danser et fumer, leur coupant les cheveux et la barbe. Dans une autre église du même couvent, les bolchevistes se vêtirent d'habits sacerdotaux et se livrèrent à une parodie du service divin. Le pillage continua durant 2 jours. Tout ce qu'on put trouver dans les églises et maisons d'habitation des moines fut mis sur 38 camions et emporté sous escorte militaire. Dans le même gouvernement de Kharkov, à Borki, dans l'église construite pour commémorer le sauvetage de la famille impériale lors de la catastrophe de chemin de fer qui se produisit à cet endroit, les bolchevistes, le fameux Dibenko en tête, accompagné de leur maîtresse, organisèrent des orgies qui durèrent 3 jours et au cours desquelles ils lacérèrent les vêtements sacerdotaux, détruisirent les icônes, transformèrent une des chapelles en cabinet d'aisance, etc. À Tambov, une des églises fut transformée en théâtre, les icônes brûlées ou lacérées et brisées, les vêtements sacerdotaux employés comme couverture pour chevaux, les objets sacrés du culte, les croix, etc., furent mis sur des traîneaux et promenés dans les rues accompagnés d'une procession grotesque, qui chantait des chansons obscènes sur des motifs religieux. Dans un document que le clergé et la population de la ville d'Arkhangel ont remis en 1919 au gouvernement provisoire de la région du Nord, il est dit que le gouvernement soviétique non seulement ferme les églises, mais les transforme en maisons de thé, en cinéma et en casernes. Nombreux sont les cas où des orgies sont organisées dans les églises désaffectées. C'est à cette époque aussi que le pouvoir soviétique ordonna l'ouverture des châsses et des sépultures où reposaient les restes vénérés par le peuple, des saints, des patriarches et des métropolites, des tsars, des grands-ducs moscovites et de leurs boyards, particulièrement célèbres pour les services rendus à la patrie. Les reliques étaient sorties avec insultes, souvent dispersées, quelquefois envoyées dans les musées locaux et exposées avec des inscriptions sacrilèges. Nous avons devant nous une liste officielle des ouvertures de châsses contenant des reliques de saints pratiquées du 12 février au 9 avril 1919. À elle seule, elle comprend une quarantaine de noms. ce vandalisme sacrilège et ce banditisme furent pratiqués aussi bien dans les modestes paroisses villageoises que dans les églises des villes et dans les couvents et lieux saints les plus renommés et les plus chers aux croyants orthodoxes. Ils furent organisés, sinon en vertu d'ordres écrits devant lesquels le gouvernement soviétique lui-même a reculé, du moins avec son autorisation et le plus souvent sous sa direction immédiate. Voici maintenant la seconde période. Profitant cyniquement du désastre qui s'abattit sur le pays et qui était la conséquence directe de toute sa politique économique, le gouvernement soviétique trouva le moyen d'instituer une base légale au pillage et à la profanation des sanctuaires, désormais officiellement organisés à travers tous les pays. À la fin de 1921, la Russie était atteinte par une disette de céréales. Le pays connut en 1921-22 une famine dont on ne pourrait pas citer un autre exemple, à moins de remonter au XIIIe et au XIVe siècle. Le gouvernement n'a jamais osé publier une statistique précise du nombre de victimes causées par le fléau. Ce qui est certain, c'est que ce nombre n'a pas été inférieur à 12 millions. De grands villages ont perdu la totalité de leur population. Dans les villes, des habitants tombaient en pleine rue et mouraient d'inanition. Les routes entre les campagnes et les villes sont parsemées de tombes de gens, surtout d'enfants, morts de famine au cours de l'hiver 1921-22. Les rapports officiels de médecine ont enregistré de nombreux cas de cannibalisme. C'est dans ces conditions que le gouvernement soviétique publia le décret du 9 décembre 1921, inoffensif en apparence, par lequel il autorisa les fidèles à faire des collectes dans leurs paroisses au profit des affamés. En fait, ce décret fut le premier acte par lequel le gouvernement désigna au peuple l'Église comme le lieu d'où se trouvaient les ressources nécessaires pour venir en aide aux affamés. Ce décret fut suivi dans la presse officielle d'une campagne pour la confiscation des objets sacrés en argent et en or appartenant aux églises. Des lettres de soi-disant lecteurs furent publiées exigeant la remise de ces objets par les églises aux autorités. Enfin, parut le 23 février 1922 le décret rendant cette remise obligatoire et fixant les conditions dans lesquelles elle devait s'effectuer sur le territoire tout entier de l'URSS. Ce décret allait jouer un rôle décisif dans le sort de l'Église orthodoxe. En effet, le gouvernement soviétique s'en est servi non seulement pour dépouiller les sanctuaires et pour intensifier sa propagande anti-religieuse militante, mais pour assassiner et déporter des milliers de prêtres, intenter des procès aux plus hauts dignitaires de l'Église et essayer de créer le schisme dans les milieux orthodoxes. Il a été le point de départ de la guerre méthodique dirigée contre l'Église et ses desservants sous prétexte d'une résistance opposée par les hauts dignitaires de l'Église. Prétexte complètement faux et mensonger. Certes, les dirigeants de l'Église orthodoxe ne pouvaient faire autrement que de réprouver le décret, mais ils ont toujours conseillé la résignation aux fidèles. Quant à la population, il faut avoir le courage d'avouer qu'elle n'opposa quelque résistance que dans des cas très rares. Expulsés des églises, des armées, les fidèles se réduisaient au rôle de témoins puissants et inertes devant le spectacle navrant de la profanation de leur sanctuaire. On pourrait citer des cas innombrables de confiscation d'objets sacrés, sans aucune valeur marchande, mais chers aux fidèles par les souvenirs qui rattachaient ces objets, souvent depuis des siècles à l'Église. Confiscation exécutée sous la forme la plus sacrilège, pendant le service divin même. Ces attentats ne firent pas sortir la population de son apathie. Récemment, à Varsovie, un prêtre catholique a publié un volume où sont décrits les cas les plus révoltants de pillage et de profanation de sanctuaires par les bolchévistes. On lit ce livre, la gorge serrée, avec le vif regret que cette description, faite par un prêtre désintéressé et n'appartenant même pas à la foi orthodoxe, n'ait pas reçu une diffusion plus grande. Avec une précision et une simplicité tout objectives, l'auteur raconte comment on mettait en tas, sans faire le moindre triage, les objets confisqués. Comment on arrachait les ornements métalliques, comment on laissait sur place les objets cassés en morceaux, en empilant le reste, sans le moindre soin, dans des caisses. Les caisses étaient ensuite vidées à Moscou, au lieu de réception, et formaient des amas informes. On en prélevait de temps à autre, au hasard, certains objets, en laissant d'autres beaucoup plus précieux qui étaient ensuite volés par des individus ayant accès à ce dépôt et vendus par des intermédiaires à des collectionneurs ou à l'étranger. Les mesures de confiscation des objets sacrés ont inauguré une ère qu'on pourrait appeler celle de la liquidation des églises. Voici quelques extraits de la presse soviétique du début de l'année 1923. Le 22 janvier, à Tiflis, a eu lieu la remise solennelle de la cathédrale militaire à la jeunesse communiste. Des clochers retentit l'international. La cathédrale, transformée en club, était brillamment illuminée et, dominant le tout, étincelait au-dessus de l'édifice sacré l'étoile soviétique. Le 20 février, les Izvestia annoncent que les églises voisines des mines de l'Ukraine sont désaffectées. Le 23 février, dans le gouvernement de Toula, les autorités locales décident que l'église de Zmievka sera détruite et que les matériaux serviront à la construction d'une maison du peuple. Le 24 février, fermeture de tous les couvents qui se trouvent dans la région des Bashkirs. À la même époque, le soviet de Moscou décide de liquider une série d'églises, de Saint-Pimène, de Saint-Alexandre-Nevski, de la Joie Inopinée, etc. Le 6 mars sont liquidés deux monastères d'Alatyr. Le 7 mars est désaffectée la cathédrale de Saint-Alexandre-Nevski à Simferopol. Le même jour, à Orel, la synagogue locale est désaffectée et transformée en une bourse. Le 14 mars, à Potchensk, dans la région du Don, on enlève, au son de l'international, les clochers de l'église qui sera transformée en théâtre. Le 15 mars, à Penza, la cathédrale est transformée en bibliothèque. Le 21 mars, à Odessa, fermeture de 10 églises et d'une synagogue. 3 églises et la synagogue sont transformées en théâtre. Le 24 mars, à Gomel, un tiers des églises et des synagogues de la ville sont désaffectées. On pourrait multiplier à l'infini ces exemples. La désaffectation des églises porta souvent le caractère du plus grossier sacrilège. Le 3 mars 1923, à Moscou, on organisa dans la cathédrale de la ville une soirée de danse, la représentation d'un vaudeville et un buffet avec vente du vin d'église. Dans l'église de Saint-Pimène, on mit à la place d'une icône le portrait de Liebknecht, on couvrit les murs d'inscriptions à bas les saints et on chanta en chœur des chansons obscènes, etc., etc. Les mesures qui avaient pour but d'anéantir la foi parmi les masses populaires atteignaient en même temps les monuments les plus chers du passé historique et de la gloire de l'État russe. Aussi le gouvernement soviétique, qui cherche par tous les moyens à faire disparaître tous les vestiges du passé de la Russie, y attachait une double importance. Depuis le IXe siècle, l'Église orthodoxe a une histoire qui se développe parallèlement à l'histoire de l'État russe, auquel elle est indissolublement liée. Sur l'immense territoire de l'ancienne Russie, de l'extrême nord aux plus extrêmes confins méridionaux et des provinces les plus occidentales de la Pologne actuelle aux coins les plus ignorés de l'océan Pacifique, il n'est pas d'endroit où la vie religieuse n'ait laissé des traces profondes. Partout, on se trouve en face de l'œuvre de l'Église orthodoxe que le peuple russe entourait d'une juste vénération. C'est à Kiev, dans cette mère des villes russes, que sont groupés les monuments historiques les plus anciens de l'Église et de l'État russe. C'est ici, sur les bords du Dniepr, à l'endroit même où s'étend actuellement la ville, que d'après la tradition, l'apôtre André prêcha le christianisme aux sites païens. C'est au même endroit que fut baptisé au IXe siècle de notre ère le grand-duc de Kiev, Vladimir, reconnu comme saint par l'Église orthodoxe. C'est ici que vécurent et se sanctifièrent les premiers chrétiens qui ont jeté les bases de la civilisation russe et dont le souvenir était de tout temps un objet de vénération populaire. Pendant 3 siècles, ils en souffèrent, aussi bien pour leur foi et pour leurs aspirations nationales, les persécutions les plus atroces de la part des éléments hostiles qui entouraient ce berceau du peuple russe. Les catacombes historiques creusées sous le Dniepr et sur sa rive opposée témoignent encore aujourd'hui de leur vie et de leurs œuvres. C'est dans ces catacombes qu'à l'époque des persécutions vivaient, priaient dans les chapelles, édifiées par eux, et mouraient ces hommes admirables, et c'est ici que reposaient leurs reliques. Pour manifester sa vénération à ces monuments historiques de l'Église orthodoxe et de la nation, le peuple russe a construit de véritables basiliques dans ses cryptes. De nombreuses reliques y étaient conservées des siècles, non seulement des coins les plus éloignés de la Russie, mais de tous les pays slaves du sud-est, des foules de pèlerins sont venues s'agenouiller devant ces sanctuaires. Aussi, est-ce contre ce centre de la vie religieuse et nationale qu'ont été dirigées les premières attaques du gouvernement soviétique? La Lavra, couvent fortifié historique de Petchersk, fut plusieurs fois pillée et subit des outrages sacrilèges avant d'être définitivement fermée. Toutes les cathédrales les plus vénérées de la vieille ville ont été odieusement profanées, les reliques des saints extraites de leur chasse ignoblement outragées et dispersées. De même a procédé le gouvernement soviétique contre les centres les plus célèbres de l'histoire russe. Les villes de Novgorod, de Pskov, de Vladimir, de Kazan, de Voronezh, mais surtout le Kremlin de Moscou avec ses sanctuaires, ce Kremlin qui a été, depuis le XIIIe siècle, le centre du groupement des peuples russes autour du noyau moscovite et dont les cathédrales et les monastères reflètent les épisodes les plus importants et les plus émouvants du passé de la Russie, si complexe et si riche en événements historiques. Aucun des sanctuaires du Kremlin n'a échappé à la visite des vandales bolcheviques et aucune sépulture de hauts dignitaires de l'Église orthodoxe et des tsars n'a été épargnée. Voici comment le correspondant à Moscou du Berliner Tageblatt, M. Paul Schäfer, dans un article intitulé « Le Kremlin mort » décrit l'état actuel du Kremlin. Un simple inventaire ne pourrait donner une idée des dommages causés au Kremlin. Ce qui impressionne le plus, c'est la disparition de l'effet général que produisait l'intérieur de ces cathédrales, leur atmosphère mystérieuse, douce et troublante. Elle n'existe plus. Autrefois, des milliers et des milliers de cierges, grands et petits, brillaient dans l'obscurité, et on apercevait qu'en haut, près de la coupole, une lumière diffuse. Les reflets des cierges jouaient sur l'or, l'argent, les précieux tissus, l'opacité sombre des images saintes, les formes lourdes des chandeliers, les magnifiques et massifs revêtements des icônes. D'après un usage ancien, on ne laissait visible sur les icônes que la face, les mains et les pieds des saints, en recouvrant tout le reste par de l'or et de l'argent. Ces cuirasses mates des icônes sur tous les murs, sur toutes les colonnes et les autels, la lumière des cierges qui s'y jouaient, remplissaient les sanctuaires d'une vie solennelle et mystérieuse. Maintenant, tous ces revêtements sont arrachés. On a enlevé même les plaques d'argent des gaines en cuivre qui recouvrent les tombeaux des patriarches. Les poêles en brocart sont jetés en tas ou mis dans des caisses. Toutes les lampes d'icônes, les lampadaires, les chandeliers et les candélabres en argent ont été envoyés à la fonte. On n'a laissé qu'un seul candélabre à la cathédrale des archanges, d'un poids de 400 kilos, dont des cosaques fabriqués avec les objets d'église qu'emportèrent les Français en 1812 et que les cosaques leur reprirent. On l'a épargné pour laisser un échantillon des richesses dont, avant, les églises étaient remplies. On a encore laissé quelques souvenirs historiques sans valeur marchande. Mais l'impression générale est celle d'un vide effroyable. Du cercueil du métropolite Pierre a été arrachée la châsse en argent qui contenait l'image du saint, et on aperçoit sur une planche en bois sombre que le dessin de la face, des mains et des pieds et les empreintes des scellés. Tous les vases sacrés ont été enlevés, parce qu'on ne célèbre plus de service divin dans les églises du Kremlin. On a laissé, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, les célèbres portes de la cathédrale de l'Annonciation recouvertes d'ornements ajourés en or. Mais de l'image du Christ placée au-dessus des portes de la cathédrale et devant laquelle a prié le faux Démétrius, on a arraché le revêtement en argent et on n'aperçoit plus à sa place qu'une planche de bois rugueuse et noire sur laquelle se voient les contours de la tête. Tel est l'état de toutes les icônes du XIVe et du XVe siècle. Même sort a été réservé à un autre centre historique et religieux qui se trouve aux environs de Moscou, la Lavra de la Trinité et de Saint-Serge, dont l'histoire est intimement liée à la vie d'un autre saint national, Serge de Radonège, qui donna la bénédiction au grand-duc Dimitri Donskoï dans sa lutte contre les Tartares. La victoire de Dimitri Donskoï mit fin à une des époques les plus sombres et les plus humiliantes de l'histoire russe, l'époque du joug tartare, et fut le point de départ de la renaissance nationale de la Russie. Ce couvent attirait à lui des centaines de milliers de pèlerins russes. Il était devenu un des centres les plus fameux de l'enseignement ecclésiastique et de la culture russe en général, dont l'ancienne Russie était à juste titre fière. Ce centre fut détruit par les bolcheviks. Le tombeau de Saint-Serge fut profané. Ceux qui continuaient son œuvre en son nom furent en partie assassinés et en partie expédiés en exil et dans les prisons. Ainsi, ce sanctuaire, d'une beauté incomparable et particulièrement cher aux fidèles, a cessé d'exister. Les églises de Petrograd n'ont pas davantage été épargnées. La plus majestueuse, la plus colossale parmi elles, la cathédrale de Saint-Isaac, œuvre de l'architecte français Ricard de Montferrand, est désaffectée, transformée en musée anti-religieux et menace ruine par manque d'entretien. Dans la cathédrale de Kazan, consacrée à la commémoration de la guerre patriotique de 1812, le magnifique ornement en argent massif, présent des Cosaques du Don en souvenir de leurs exploits victorieux, a été entièrement arraché de l'iconostase et il ne reste à sa place qu'un mur en planche. Ce vandalisme est pratiqué méthodiquement, consciemment et de sang-froid. Il continue sans qu'aucune protestation ne s'élève de la part du peuple qui, terrorisé, répond par le silence aux violences du pouvoir. Le nouvel attentat du gouvernement des Soviets contre la foi du peuple russe et contre un des monuments les plus vénérés par lui est tout récent. Il date du mois d'août de l'année courante. On peut en trouver la description faite par M. François Porcher dans l'illustration du 23 septembre. Sur l'ordre des autorités soviétiques, dans la nuit, au moment où s'arrête la circulation vers la place Rouge, ornée actuellement du mausolée de Lénine, a été démolie la célèbre chapelle de la Vierge d'Ibérie, située entre les deux passages de la porte historique d'Ibérie. Depuis les temps les plus anciens, une copie de l'icône de la Sainte Vierge d'Ibérie était conservée dans cette chapelle. Le peuple venait en foule de tous les coins de la Russie pour réciter les prières devant l'image miraculeuse. Du matin au soir, des centaines de cierges brûlaient à l'intérieur du sanctuaire, allumés par des mains pieuses, et de nombreux fidèles stationnaient sur les marches et sur la place devant la chapelle, attendant leur tour pour y pénétrer. Chaque fois que les tsars venaient à Moscou, ils considéraient comme le premier de leur devoir de venir s'agenouiller devant la sainte image. D'un geste instinctif, tout passant se découvrait devant ce lieu de vénération populaire. C'est ce sanctuaire que le gouvernement soviétique a fait disparaître dans la nuit comme un criminel qui craint d'être surpris. Les derniers cierges allumés par les fidèles se sont éteints. La place devant la chapelle s'est vidée. Le gardien a fermé les portes à clé et s'est éloigné. À ce moment, des hommes portant des pinces et des marteaux s'approchent de la chapelle et après avoir démonté la légère construction, ils entassent sur un camion automobile les matériaux de démolition, tous les objets qui se trouvaient à l'intérieur et avant tout la sainte image, et le tout est emporté dans une direction inconnue. Le matin, les passants trouvèrent un mur nu à la place de la chapelle. On ignore où se trouve l'icône miraculeuse, de même qu'on ignore les sentiments que provoqua cet acte abominable dans l'âme du peuple qui se tait. Qui pourra nous dire quand et comment il répondra à ces profanations ?